Je mets le mot. Bonsoir à tous. Donc, les jeudis en question ont choisi, ça fait maintenant 6 mois, de prendre en main un sujet qui nous a paru à l'époque, non pas tout à fait d'actualité, mais quand même quelque chose qui avait besoin d'être un petit peu creusé pour voir les démarches qui amènent chez l'individu la prise en compte du problème collectif et ensuite l'action et bien sûr après tout ce qu'il y a dans un conflit avec le patron en général, puisque quel qu'il soit, s'il est administratif ou commercial ou industriel, c'est quand même un patron et dans sa façon de fonctionner. Voilà, avec ses subordonnés. Donc ça nous a paru intéressant et c'est d'autant plus d'actualité, bien sûr, que effectivement on entend parler en ce moment-ci de la grève. Voilà. Donc moi, mon petite expérience de syndicaliste enseignant faisait que j'avais eu à côtoyer sur le terrain des Rouges de Casseville, donc des gens qui m'avaient paru intéressants, parce que ça fait quand même un moment que je connais David et Laurence et que je les ai vus évoluer aussi dans des conflits, et donc ça m'a paru intéressant que ce soit eux qui viennent ce soir. On en a parlé entre nous et donc ceux qui organisons les jeudis en question, et donc on est arrivé dans la discussion à dire ça serait bien qu'ils viennent. Et quand j'ai trouvé Laurence sur une balade, une des nombreuses balades que l'on fait sur le Ruthénois à l'appel des centrales syndicales, et donc je lui en ai parlé, elle m'a dit ah oui, intéressant, donc voilà. Et donc ils sont là ce soir, donc Laurence Cahor qui était une petite contractuelle postière au départ, c'est ça. Voilà. Et puis qui a un jour dit non. Et le non l'a amené 15 ans, 20 ans après, voilà. Et voilà, à être devant vous ce soir et à avoir pris des responsabilités au niveau du département et de la région même. De la région ?
Département.
Voilà, des départements. Bon. Et David, David aussi que j'avais côtoyé. David qui a eu aussi des responsabilités de base syndicale, qui ensuite a été élu au niveau de Decazeville responsable de l'union locale. Et de là, appelé à venir dans l'organisation départementale, et maintenant il est même sur les métaux à Paris. C'est sur les métaux ?
Non, c'est... C'est sur l'Interpro.
Sur l'Interpro, c'est plus riche. Et c'est aussi ça que je voulais dire. Nous, en tant qu'enseignants, on trouvait toujours de la richesse dans le côté local, interprofessionnel. Et donc, c'est ça qui nous faisait découvrir les conditions de travail à l'extérieur, de se rendre compte de ce qu'était le monde ouvrier, mais vu de l'extérieur, puisqu'on était enseignants. Et c'est ça qui faisait toute la richesse de ce qui a donné, d'ailleurs, des richesses supplémentaires au bassin, qu'on a appelé le tous ensemble, qui réunissait aussi bien des commerçants que des syndicalistes, que des politiques, donc les élus. Voilà. Et donc, toute cette valeur ajoutée par... cette construction collective, moi j'ai trouvé qu'ils étaient peut-être les mieux aptes à venir nous en parler. Voilà. Donc, mais j'ai pas fini. Je suis peut-être un petit peu long. Et donc, voilà. Donc je parle pas, je dis en question, vous voyez bien là. Hein. Mais, et donc Quentin, qui est donc là avec nous ce soir, c'est... un petit peu l'image d'un conflit, c'est celui des McDo de Villefranche, et il sera là pour nous témoigner depuis les débuts jusqu'à leur sortie tête haute de cette histoire-là qui a duré un an et demi.
Qui a duré 7 mois.
7 mois ?
Oui.
7 mois.
213 jours de grève.
De grève, oui, non, mais oui. Mais il n'y a pas que la grève qui compte, il y a tout ce qui se passe avant, et voilà. Donc voilà, quand je dis un an et demi, c'est peut-être un peu gros, mais c'est au moins un an. Voilà. Donc Quentin sera là, le conflit des mafios de Villefranche, pour illustrer. Voilà. Et bien sûr, toutes les questions sont possible. Tout est tout le débat à l'intérieur même de la salle est possible, comme d'habitude dans les jeudis en question. Et c'est intéressant d'enrichir tout ça. Voilà. Alors juste pour les jeudis en question, on avait sans doute pour le dernier jeudi de juin, on avait pensé à faire venir quelqu'un pour l'état actuel de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe maintenant autour du conflit, on va dire, de Notre-Dame-des-Landes, mais ce n'était pas un conflit ordinaire. Et donc, moi j'ai eu contact avec les gens qui étaient venus il y a 5 ans, ils étaient venus nous faire un jeudi en question sur Notre-Dame-des-Landes, on était à Clairvaux. Et ils sont un peu boiteux dans le sens où ils ont eu des problèmes de santé et ils étaient quand même déjà assez âgés, entre 75, bon. Et donc, pour se déplacer, là, c'est délicat. Alors, donc, je ne sais pas ce qu'on fera jeudi dernier de juillet. Quand je dis je ne sais pas, c'est qu'il faut trouver, changer le fusil d'épaule. Bien entendu, c'est un sujet qu'on retrouvera garanti à la rentrée. On s'organisera avec peut-être quelqu'un d'autre, mais là, il nous faut un peu reprendre la chose. Voilà, donc les jeudis en question accueilleront avec très grand intérêt la participation de l'un ou l'autre d'entre vous pour créer les jeudis en question. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes un peu dans un étiage de volonté organisatrice. On est toujours partant parce que l'histoire des jeudis en question, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse, nous organisateurs, en premier. Mais bon, le jour où ça s'éteindra, c'est qu'on ne pourra plus faire les jeudis en question. Voilà, donc bonne soirée. Il y a toujours le chapeau, la liste pour ceux qui sont bien inscrits, et le fameux petit papier. Là, voilà. Vous vous inscrivez dessus comme si vous n'avez pas la joie d'être déjà sur les listes. J'ai juste mis quelques numéros de l'empaillé, si jamais il y en avait parmi vous qui ne l'avaient pas. Donc, l'empaillé, on va dire, pour 6 mois en général, 6 mois par an, vous avez un numéro d'empaillé. Voilà. Donc, bonne soirée. Et je passe la parole à Laurence, qui va nous présenter la chose avec David. Et ensuite, bon, on fera la petite interruption. On n'a pas de bibliographie dessus parce que c'était beaucoup trop vaste. On n'a pas eu l'idée de mettre en route une bibliographie sur le sujet. On peut se procurer de la littérature très facilement, peut-être pas la bonne, j'en sais rien, mais on peut s'en procurer.
Hein ? Des films ?
Des films aussi, effectivement. Mais là, il y en a un qui vient de sortir il y a pas longtemps, là, justement, avec Monsieur Lindon. Voilà, c'est le conflit, non, la guerre.
En guerre.
Et donc, je vous passe la parole. On reprendra le débat avec Quentin après la petite interruption. Voilà. Bonne soirée et à vous.
Alors, tout d'abord, merci de l'invitation. Je ne viens pas vendre un produit. Je viens vous en faire profiter un produit qui est un lien très étroit avec la soirée de ce soir, puisque dans la grève terreau de la résistance collective, il y a un exemple qui est pris, c'est les ouvriers de Fralib à Orange. Et donc les ouvriers de Fralib, après 1336 jours de lutte, se sont réappropriés l'outil de travail et donc ont créé une SCOP face aux géants américains Lipton, Elephant, et donc en se réappropriant l'outil de travail, donc on désormais produisent leur propre production, et donc ils ont appelé 1336. Donc c'est des produits garantis sans arômes artificiels, c'est désormais des produits beaucoup plus sains que ceux qui existaient auparavant, et donc ils en font le commerce. C'est à disposition, vous pourrez goûter, peut-être pas assez pour tout le monde, mais j'ai réfléchi à ça cet après-midi, puisque j'avais ça dans les locaux de l'UD, et je trouvais que ça imageait bien pourquoi on est invité ce soir, à savoir que la problématique pour eux aujourd'hui, c'est que ils ont du mal à trouver des magasins, des chaînes qui veulent bien le vendre ce produit, quoi. Donc c'est pour ça que on essaie de le faire connaître, parce qu'après ils ont un site et il y a possibilité de le commander, voilà. Et donc l'illustration qu'au travers de 1336 jours de grève on peut gagner et se réapproprier l'outil de travail, et qu'on a dans un certain nombre d'endroits pas besoin de patron, parce que sans ouvriers ou salariés, les boîtes elles peuvent pas tourner. Sans patron, il y en a beaucoup qui tournent, et parfois bien mieux. Alors, moi je suis pas là en tant que secrétaire d'union départementale, je veux faire part de mon expérience personnelle. On en parlait tout à l'heure en aparté avec Didier sur le fait de est-ce que pour participer à une grève il y a besoin d'être syndiqué, qu'elle soit mise en place ou organisée par un syndicat. La question qu'on se posait, on n'était pas loin d'être à peu près d'accord sur la finalité, sur le fait de dire que je l'aborde, si tu en as d'accord, mais je vois que tu me regardes de manière bienveillante.
Consentante.
Non, mais parce que on se connaît la plupart. Faut pas qu'on se raconte d'histoire aussi. Ce qu'on disait avec Didier, c'est que parfois, et dernièrement d'ailleurs, dans des appels à la grève, on se retrouve de manière surprenante à avoir des salariés d'entreprises non syndiqués qui participent au mouvement qu'on peut proposer en commun avec Sud Solidaire notamment, et des salariés syndiqués qui n'y sont pas. Donc ça doit nous interpeller, cette question-là. Et donc, moi, mon parcours personnel, il est que moi, je me suis impliqué syndicalement après avoir fait partie des 6 salariés qui, en 98, ont séquestré le patron de la SAM pendant toute une soirée, toute une nuit. Et je n'étais pas, à l'époque, syndiqué. J'étais pas militant, j'étais pas syndiqué. J'étais salarié d'une entreprise et je ne supportais plus, comme la grande majorité des salariés au départ du conflit qui a duré 15 jours, l'attitude d'un PDG qui était méprisant, qui était insultant, qui était un PDG. Le conflit, le mouvement a été organisé par, à l'époque, 2 organisations syndicales, la CGT et la CFDT, mais moi j'ai considéré qu'il fallait qu'on leur fasse baver à ces deux patrons. Il y en avait 2, mais notamment un qui était. Et donc qui avait besoin de le séquestrer. Et donc je fais partie de ces 6 salariés qui l'ont séquestré avec une très très grande fierté, mais vraiment une grande fierté. C'est pas autant que dès le lendemain, pas le lendemain exactement, mais quelques jours après, où on a obtenu gain de cause, parce que la totalité des 450 à l'époque salariés de la SAM se sont mis en grève, que spontanément, moi, je me suis dit, tiens, il faut que je me syndique. Ça s'est fait après, par un cheminement naturel peut-être. Et donc, voilà, sur la porte d'entrée, sur le débat qu'on pouvait avoir. Après, sur je pense que dans le titre, la grève terreau de la résistance collective, comme son nom l'indique, c'est la notion de collectif, quoi. C'est comment on arrive à faire en sorte que, au travers, quand on considère que, alors, moi, en l'occurrence, la SAM, on est arriver à une situation qui nécessite qu'on se mette en grève, comment on assure sa réussite. Mais ce qu'on se disait aussi, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec Didier, c'est Est-ce que le seul moyen de la lutte est nécessairement la grève? Parfois, le rapport de force, ça peut être une pétition. À certains endroits, ça peut fonctionner. Dans cette même entreprise, tout ce que je dis ici est vérifiable. On a fait virer une DRH uniquement par une pétition signée par 420 salariés. Mais, puisque là, il s'agit de la grève, l'organisation syndicale, quelle qu'elle soit, peut décider de lancer un mouvement et quand elle l'exprimera après d'une manière différente, et c'est ce qui fera la richesse des débats et des échanges interactifs qu'on va avoir. Sauf que l'organisation, elle est censée représenter les salariés d'un établissement, peu importe, une entreprise privée ou publique, et que la meilleure façon de s'assurer de sa réussite, puisque l'objectif, la grève, ce n'est pas une finalité en soi. Quand on arrive à être en grève, on sait quand est-ce qu'on y part. Moi, en 98, on est parti un jeudi après-midi, on ne pensait pas qu'on allait y rester pendant 15 jours. Et, voilà, c'est, on sait quand est-ce qu'on rentre le côté, on ne sait pas.
Je confirme.
Et donc, le cheminement ou la construction de dire on décide de se mettre en grève, alors ça peut être 2 heures, ça peut être plusieurs formes, mais quand on décide d'un blocage de site comme nous on l'a fait, alors après c'est en 98, c'est en 2010, c'est en 2012, c'est en 2014 et c'est en 2016, toutes ont été couronnées de succès. Elles ont été couronnées de succès. La dernière, c'était au mois de mai l'année dernière, durant 5 jours, là, pour obtenir le fait que cette entreprise de 550 salariés, elle puisse toujours exister. Et donc, là, on n'était pas sur un mouvement pour demander une augmentation de salaire, pour demander une amélioration des conditions de travail, mais là, pour sauver le job des 449 collègues, quoi. Et donc, là, le poids, il est énorme. Mais on n'a jamais construit les choses différemment, que ce soit pour demander 50 euros d'augmentation, le départ du PDG, parce qu'en 2016, c'est aussi mobilisé pour le départ du PDG qui avait remplacé l'ancien. Comme quoi, les choses... voilà, ouais. Et chaque fois, on l'a construit... avec les salariés, c'est-à-dire qu'on a décidé démocratiquement avec eux, on a fait la proposition en disant nous on considère qu'aujourd'hui on est arrivé à une situation qui ne nous permet plus de pouvoir accepter de ces conditions-là, de pouvoir alors là en 2016 PDG nous apprenait qu'on était passé en plan de sauvegarde alors que un mois avant tout allait bien malgré le fait qu'on le dénonçait, que nous avons été isolés par les pouvoirs publics parce que personne ne voulait nous écouter. Le PDG avait dit que tout allait bien, donc il fallait l'écouter à lui. Donc là on a fait mesurer les choses. Donc nous on fonctionne, c'est peut-être intéressant de le savoir, mais on a un réfectoire, on fait des assemblées générales, on en fait 3 dans la journée. Une de 11h à midi, une autre de 14h à 11h à midi, on réunit les salariés du matin et à la journée. L'après-midi, 14h, 15h, les salariés d'après-midi, et 21h, 22h ou plus tard, les salariés de nuit. Et il se trouve que pour ces assemblées générales, y compris l'encadrement a participé, parce que là, c'est chacun mesurer que ce que nous dénoncions depuis un moment, c'est-à-dire la survie même de notre outil de travail, était en danger. Donc, On a fait les choses en plusieurs temps. On a fait en juin 2016, on a demandé aux salariés s'ils considéraient qu'on devait demander à l'actionnaire majoritaire la tête du PDG. Ce n'est pas une action simple de demander ça aux salariés. On n'avait aucune garantie. On a expliqué, on a apporté des éléments financiers et on a donné confiance en disant clairement, et là aussi, moi je crois que pour ça, c'est aussi un lien avec les caractères de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, moi j'ai une étiquette CGT, mais il y a des militants Sud Solidaire, CFDT, désolé, ou d'autres qui ont aussi ce caractère de dire on ne peut pas accepter et la situation et on vous apporte des éléments, mais faites-nous confiance, si on répond collectivement, on peut inverser le cours des choses. Nous, ça paraissait mais totalement utopique d'obtenir la tête de ce PDG ne serait-ce que 6 mois avant, parce qu'il était perçu dans le bassin par le préfet, par tout le monde, comme un dieu vivant qui avait relevé le bassin, alors qu'il n'a rien relevé du tout. C'est nous qui avons relevé cette entreprise au fil des années. Et donc, quand on dit, voilà, on va passer au vote, et donc qui est pour le départ du PDG, et que vous voyez 95% des mains se lever, y compris de l'encadrement, pas honte de le dire, j'en ai encore des frissons parce que là, vous sentez une force considérable et que c'est sur les trois postes la même chose qui s'exprime. Et en disant de toute façon, des salariés qui d'habitude ne s'exprimaient pas, mais là qui étaient en larmes parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi, l'ayant perdu auparavant dans différentes entreprises du bassin, malheureusement, il y a trop d'exemples. Et donc, quand on réussit quand on obtient ce vote-là, on sait qu'il y a une adhésion largement majoritaire, y compris de l'encadrement, et ça nous permet d'obtenir 4 mois après, sa tête, quoi. Et dans les étapes suivantes, comme on a donné confiance, on a dit oui, on obtiendra, parce que vous l'avez voulu, on obtiendra son départ, et bien qu'on réussit à l'avoir, il y a une confiance inébranlable les uns envers les autres. Les uns envers les autres, parce que c'est ce qui fait la réussite ou le succès d'un conflit. C'est de ne pas se mentir, ne pas se trahir, et de dire, on décide d'eux, ensemble, on part tel jour, parce que quelques mois après, il a fallu qu'on bloque l'usine au mois de mai, totalement, parce que là, il y avait un désengagement de l'État, des constructeurs, puisqu'on travaille pour Renault et Peugeot, et un Canadien qui voulait nous reprendre, mais supprimer 200 emplois. Et là aussi, on a dit, non, hors de question de perdre des emplois, alors que tout autour, on nous disait, mais quand même, il faut accepter. Il faut accepter. Ils vous reprennent, ils viennent du Canada pour vous reprendre. Non, non, non. Et là, on a expliqué aux salariés. C'est pas simple, ça, de faire comprendre à des salariés. Enfin, comprendre. De réussir à dire à des salariés, voilà, on a un repreneur, mais nous, on considère qu'avec les éléments qu'on a, cette entreprise, elle est viable. Sans supprimer 200 emplois, mais au contraire, qu'il y aura besoin d'embaucher parce qu'il y a des perspectives de développement de l'auto, quelle qu'elle soit, sans sous diesel, mais ça pourrait être un débat, ça. Je ne suis pas parti des jeudis en question, mais voilà. Ça, dire à des salariés, voilà. Quand ils vous posent la question, oui, mais quelle garantie on a qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va venir nous reprendre ? On n'en a aucune. Mais on se fait confiance, et nous, on considère qu'aujourd'hui, Renault, comme ils ont décidé de travailler à flux tendu, et bien qu'ils nous prennent ce qu'on appelle, nous, prendre les pièces au cul du camion, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce choix-là de travailler à flux tendu, donc ils n'ont plus de stock chez eux. Donc c'est un atout considérable pour nous, parce que comme on est en contact avec nos camarades de Valladolid ou de Cléon, on les appelle et ils nous disent, nous, on a 24 heures d'avance. Si vous ne nous livrez plus, les chaînes s'arrêtent. Une chaîne a arrêté chez Renault, alors ça tombait bien, parce que Renault est en pleine explosion. Ils vendent des véhicules. Ils vendent beaucoup de véhicules. Un arrêt de chaîne chez Renault, ça peut leur coûter jusqu'à 7 millions d'euros par jour. Donc ça, ces éléments-là, on les a parce qu'on a échangé, parce qu'on a ces billets-là. Et donc, on dit au mois de mai, ben, voilà, blocage total du site. Et là, pour les 10% de personnel qui ne voulaient pas, on a imposé le blocage du site. C'est-à-dire qu'on a été chercher le directeur du site, provisoire, le DRH, on les a pris par la main, on leur a dit, allez, vous dégagez, sinon vous allez rester bloqués, comme en 98. Et on donne confiance. Ça c'est donner confiance, c'est on prend nos responsabilités. Et là, et je m'en tiendrai à ça, parce qu'il ne faut pas être trop long. Et ce conflit, en fait, on a réussi, on avait proposé aux salariés, on a dit, voilà, on va vous proposer une stratégie. La stratégie, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on n'a plus de repreneurs puisqu'on ne veut pas de l'INAMAR. Pour pouvoir attirer d'autres repreneurs potentiels, il faut que nos carnets de commandes soient pleins. Et donc, on a décidé là de viser Renault. Et en bloquant notre site pendant 5 jours, on a obtenu de Renault des engagements fermes pendant 5 ans sur un chiffre d'affaires en hausse, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, des nouvelles productions. Et donc, la négociation s'est passée en préfecture, parce qu'ils ne voulaient surtout pas venir sur le site, des ouvriers en colère, certains très en colère. Parce que là, on ne parle pas d'augmentation de salaire, on parle de l'avenir d'une entreprise, d'un bassin.
Un petit point, hein. Il y a une voiture qui bloque à l'extérieur, une Ford Courier bleue.
On bloque tout sauf les voitures.
C'est bien, je vais prononcer le mot dans ce temps. Il n'y a personne qui a un Ford Courrier bleu.
Blanc.
Pardon, excusez-moi.
Blanc.
J'avais entendu, elle me l'a dit tellement discrètement dans l'oreille.
Et donc, le fait que donc Renault s'engage, ça permet d'avoir d'autres repreneurs qui s'intéressent au rachat de cette entreprise, en l'occurrence un groupe chinois, et où il y a eu un impact de suppression de 20 emplois. Alors, on va le dire tranquillement, 10 qu'on souhaitait, parce que c'était l'encadrement de l'ancienne direction, des fumiers, qui ont fait souffrir des gens par leur attitude, donc ils ont dégagé. Et après, les 10 autres, ils étaient à quelques, pour certains, pour un, il était à 3 jours de la retraite. On l'a intégré dans le plan, et donc au lieu de partir avec le minimum conventionnel, il est parti avec un doublement des indemnités. Et donc, ça s'est passé sans casse, et on a fait la démonstration que finalement on avait raison, cet outil de travail il était viable. Et que malgré tout ce qui avait été dit sur des salariés irresponsables, une organisation syndicale à moitié folle, au final, chacun reconnaît aujourd'hui qu'on aurait dû nous écouter bien avant, dès 2012, où on dénonçait ce qui se passait, c'est-à-dire une vampirisation des bénéfices de cette entreprise pour alimenter d'autres sites ou l'actionnaire majoritaire en l'occurrence, et donc y compris ça a valu que le tribunal de commerce de Paris, puisque ça a été jugé à Paris, considère que cette entreprise avait vécu un véritable pillage et que ce qu'avaient porté les salariés et les représentants du personnel était tout à fait vérifiable et justifié dans la façon dont ça avait été mené. Voilà, sur mon expérience personnelle.